Alors là, c'est de la géochimie isotopique. Donc je pense que vous avez eu déjà hier une belle conférence de Francis Albared, assez générale sur la géochimie isotopique. Ce que je voudrais faire ici, c'est mettre un peu l'accent sur un certain type de traceurs, des traceurs gazeux que sont les gaz rares, et qui donnent des informations, qui peuvent donner des informations sur le dégazage de la Terre. Alors, je pense que vous avez peut-être vu, c'est peut-être, je ne suis pas très sûr, mais c'est peut-être un petit peu évoqué dans les livres de collège et de lycée, ça. Donc, vous allez me dire, je l'ai fait un peu pour ça, pour vous montrer comment ça marche, que ce n'est pas des choses extrêmement compliquées. Et ça va vous donner donc un exemple de traçage isotopique avec certains problèmes que je discuterai. Alors bon, c'est un ensemble de connaissances qui ont été générées par une équipe qui était à Paris, en fait, à laquelle j'avais participé il y a pas mal d'années, hein, dans les années 80-90. Et donc, il y avait là-dedans, dans cette équipe, il y avait Thomas Todacher, André Lecomte, et c'était le laboratoire de Claude Allègre. Il n'est parfait, n'est-ce pas? J'espère que vous n'allez pas me tuer, ne sortez pas les tomates. Comment? C'est un laboratoire de géochimie. Claude Allègre est un géochimiste isotopiste. Alors, voilà, on va essayer de poser le problème. Alors, c'est une chose qui est connue depuis très longtemps, et vous le savez certainement, c'est que il y a deux types de planètes, hein, qui tournent autour du Soleil, ce qu'on appelle les planètes internes, ou planètes telluriques, et puis les grandes planètes externes, qui sont, ces grandes planètes externes sont d'énormes masses de gaz, même si à l'intérieur le gaz devient solide ou métallique, enfin bon. Et ce gaz a la composition du Soleil, c'est de l'hydrogène, hein, essentiellement, avec un petit peu d'hélium. Et donc, selon toute vraisemblance, il est facile d'imaginer que ces planètes, en tout cas leur partie gazeuse, eh bien, représentent un résidu de la nébuleuse qui a donné naissance au Soleil. 99% de la masse est dans le Soleil. Donc on dit que ces atmosphères, ces enveloppes gazeuses de ces grosses planètes externes sont des atmosphères primaires. On dit que ce sont des atmosphères primaires parce que ce sont des résidus de la nébuleuse primitive. Alors, tel n'est pas le cas évidemment des compositions, des atmosphères, des planètes telluriques, bien entendu. Sur la Terre, la composition, c'est de l'azote et de l'oxygène. Bon. Sur Mars, qu'est-ce que c'est sur Mars? La composition, c'est du CO2. Déjà, il n'y a pas une atmosphère très, très abondante. Vous avez vu tout à l'heure, 8 millibars, 7-8 millibars. Mais c'est du CO2 essentiellement, avec peut-être un petit peu d'eau et d'azote. Bon, un petit peu de gaz rare, très peu, mais essentiellement du CO2. Sur Vénus, une atmosphère très massive, très forte pression, mais composition, c'est quoi? C'est du CO2 aussi. On pense que l'eau a dû s'échapper parce que la molécule d'eau a été cassée, et l'hydrogène s'est échappé, mais c'est quand même essentiellement du CO2. Alors, bon, Mercure, on peut dire qu'elle n'a pas d'atmosphère. Mais il y a quand même une ressemblance assez frappante entre les atmosphères de ces deux planètes. Et moi, j'ai envie de dire que c'est la même chose sur la Terre, c'est-à-dire que la Terre a une atmosphère de CO2 et d'eau. Si on tient compte du fait que l'oxygène a été produit par les végétaux chlorophylliens au cours de l'histoire, hein, et que le CO2 est en fait massivement, essentiellement piégé dans les sédiments calcaires. Mais si par la pensée, vous remettez à l'état gazeux tout ce CO2, tout ce gaz carbonique qui est stocké dans les calcaires, vous retrouvez une composition qui est fort semblable à celle à la composition de l'atmosphère de Vénus et de Mars, c'est-à-dire essentiellement CO2, H2O, azote. Et on pense que c'est la composition de l'atmosphère primitive, même si ce n'est pas la composition de l'atmosphère que Miller a utilisée pour fabriquer ces molécules de la vie. Enfin bon. Donc, des atmosphères très différentes. Alors, comment ces atmosphères ont-elles pu être engendrées? On les qualifie de secondaires parce qu'on pense qu'en fait, le gaz de la nébuleuse, cet hydrogène, a été soufflé à l'extérieur, a été perdu, probablement, hein, je dis soufflé parce qu'il a probablement été perdu lors d'une phase primaire de l'évolution du Soleil, où le vent solaire était exacerbé et a littéralement expulsé vers l'extérieur du système solaire ce gaz nébulaire primitif. Alors d'où vient le gaz des atmosphères donc des planètes internes? Il a dû en fait, donc ça fait, disons dès le milieu du XXe siècle, on avait déjà cette idée-là, il a dû être piégé, ces molécules CO2, H2O, etc. ont dû être piégées peut-être par absorption sur les grains qui ont fini par donner les planétésimes, qui ont fini par donner les planètes, et ensuite ce gaz a dû être relâché, hein, c'est ce qu'on appelle donc le dégazage, depuis l'intérieur des planètes. Alors on peut envisager diverses modulations de ce scénario, puisque vous savez que les planètes se forment finalement dans les stades finaux par accrétion de corps qu'on appelle des planétésimes, qui sont analogues à des météorites. Et donc il y a des gigantesques impacts qui doivent fondre le matériel, et peut-être que c'est à l'occasion finalement de la croissance, de la croissance terminale de ces planètes que le gaz est libéré, mais plutôt qu'un autre modèle où en fait on fabrique une planète homogène et puis ensuite on la différencie, on vous en a parlé hier je pense, et puis le gaz, en tout cas les espèces volatiles sortent vers l'extérieur, ce serait le dégazage. Enfin, quels que soient ces détails dans ce scénario, il est très probable que ce gaz que nous respirons, enfin, en tout cas le CO2, l'eau et l'azote, est sorti de l'intérieur de la Terre. Donc c'est ce qu'on appelle le dégazage, et ces atmosphères sont dites atmosphères secondaires. Bon. Donc un problème, est-ce qu'on peut utiliser un traceur isotopique pour répondre à des questions du genre quand a eu lieu ce dégazage, avec quelle chronologie, est-ce que l'intérieur de la Terre est complètement dégazé, pas complètement, est-ce qu'il reste un réservoir où du gaz primitif sera encore stocké, peut-être en profondeur, des choses comme ça. Voilà, donc c'est un peu le but du séminaire. Alors, donc je vais vous parler des gaz rares. Vous allez voir, j'ai essentiellement focalisé la conférence sur l'argon et le xénon. On parle beaucoup de l'hélium, alors on en parlera peut-être ensemble après si ça vous intéresse. Mais j'ai moins parlé de l'hélium parce que ce que moi j'ai fait, c'est surtout des expériences, des analyses d'argon et de xénon. C'est ce qu'on a fait dans ce laboratoire. Alors, donc les gaz rares, donc, vous les connaissez, la dernière colonne de la classification. Oui, je vais vous parler d'argon, de xénon et un petit peu de néon aussi à la fin. Et on reparlera de l'hélium ensemble à la fin avec le tableau et la craie, si vous voulez. Alors, donc comme je disais, c'est connu depuis assez longtemps que ces atmosphères des planètes internes sont secondaires. Là, juste pour vous montrer un article d'un dénommé Brown en 1949 qui montre, on ne va pas regarder tout l'ensemble des informations qu'il y a là-dessus, mais ici c'est la masse atomique, ici c'est facteur de fractionnement, c'est en fait, ce monsieur-là, il a mis dans ce diagramme les rapports des abondances dans l'atmosphère du Soleil, des divers gaz rares, néon, argon, krypton, xénon, hein, sur l'abondance dans l'atmosphère de la Terre. Bon, il y a une certaine normalisation, hein, mais bon, passons là sous silence. Ce que je veux vous montrer, c'est les valeurs énormes. Il y a énormément plus de néon, d'argon, de krypton et de xénon. Vous voyez les ordres de grandeur, c'est 10 puissance 9, 10 puissance 10, 10 puissance 7. Dans l'atmosphère du Soleil, il y en a énormément plus que dans l'atmosphère de la Terre, par des facteurs gigantesques. Donc ça, c'était un argument encore de ce monsieur-là qui disait à l'époque, vous voyez, ça confirme bien que les atmosphères des planètes internes, en tout cas celles de la Terre, ne sont pas des atmosphères primaires, déjà avec les gaz rares. Alors, le dégazage, il existe aujourd'hui. Il a lieu aujourd'hui et on a commencé à le mesurer, à bien le caractériser au fond des mers. Alors je vous montre, bon vous savez ce que c'est ça, on est au fond d'un océan, pardon. Allez-y, oui. Oui, c'est ça, voilà, inévitablement je vais vous montrer un fumeur noir. Vous savez que ça a été découvert dans les années, à la fin des années 70, hein, 78, 79, dans les environs des îles Galapagos. Ensuite, on a trouvé un peu partout, sur les dorsales, sur les monts sous-marins. Bon. Et ces fluides chauds là, qui sortent sur les dorsales océaniques, ces fumeurs noirs, ces fumeurs blancs, ils contiennent entre autres de l'hélium-3, hein, donc un isotope de l'hélium que vous connaissez sans doute, qui est considéré comme primitif et n'ayant jamais vu le jour. Vous allez me dire, est-ce qu'il ne pourrait pas être recyclé de l'atmosphère? En fait, non, parce que pratiquement, l'hélium, une fois qu'il est sorti dans l'atmosphère, eh bien, il est perdu vers l'espace. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'est pas retenu dans le champ de gravité de la Terre. Hein, il est trop léger. Donc, quand on trouve de l'hélium-3, vous savez, l'hélium, il y a deux isotopes, hein, essentiellement. L'hélium-4, qui est la particule alpha qui est générée par les réactions des interactions radioactives à partir de l'uranium et du thorium, par exemple, hein, toutes les désintégrations alpha. Et puis l'hélium-3, donc, est considéré comme primitif. Il y a bien des petites réactions un peu canulars qui permettent d'en produire sur Terre, mais c'est complètement négligeable à l'échelle où on se place là. Donc, je vous montre par exemple un article des années 80 du fameux Craig, hein, c'est celui qui a inventé les isotopes stables, hein, pratiquement. Donc là, vous êtes sur la ride la ride Est-Pacifique. Ces gens, ce qu'ils ont fait, ils sont allés en bateau, puis ils ont ramassé, vous savez, il y a des systèmes qu'on descend dans l'océan, et puis vous avez des tas de bouteilles qui se ferment à des profondeurs différentes, et après vous remontez le tout, et vous avez un échantillonnage de la colonne d'eau, avec des bouteilles remplies d'eau provenant de diverses profondeurs. Et donc à chaque fois, ils ont analysé l'hélium, et ils ont trouvé des enrichissements dans l'isotope hélium-3, qui sont ici donnés en delta hélium-3, hein, la différence par rapport à la composition isotopique. Enfin, ce qu'on regarde là, c'est le rapport hélium-3 sur hélium-4. Si j'avais une craie, j'aimerais bien avoir une craie, mais c'est pas grave. Le rapport hélium-3 sur hélium-4. Bon, il y a un rapport hélium-3 sur hélium-4, ah oui, c'est là, qui est celui de l'eau de mer, qui est celui de l'atmosphère, hein, en général. Et puis là, quand on s'approche de la dorsale, eh ben, il y a des enrichissements, hein, les valeurs augmentent un petit peu. De 5%, 10%, etc. Et bon, c'était assez joli, puisque en fait, il montrait qu'il y avait une espèce de panache comme ça. En ayant fait les contours des iso-enrichissements hélium-3, parce qu'il y avait un courant marin qui emportait l'eau. Donc voilà, donc ce gaz riche en hélium-3, il est certainement primitif, il vient de l'intérieur, il n'a jamais vu le jour. Vous pouvez m'interrompre, hein, quand vous voulez. Et ensuite, on s'est dit, s'il vient de l'intérieur, on doit le retrouver dans les roches. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit dans les roches? Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on a essayé de faire, hein, ce que je vais vous expliquer. Donc, on est allé, c'est la grande époque, les années 70, hein, de l'exploration des dorsales, l'exploration des océans. Donc on va avec des bateaux, en sous-marin, ou alors on a des dragues, hein, et puis on essaye de ramener des échantillons de la dorsale océanique. Parce que quand même, vous savez, la dorsale océanique mondiale, c'est quand même l'endroit à la surface de la Terre qui est le plus, où il y a le plus de volcanisme, où le volcanisme est le plus abondant, si vous voulez. L'activité volcanique principale à la surface de la Terre, vous le savez, c'est la dorsale océanique. Donc c'est sans doute, c'est par là que l'essentiel de la chaleur sort à la surface de la Terre, et c'est certainement par là que le dégazage a lieu. Donc on est allé chercher tout ça. Donc voilà, ça c'est sur un bateau français, là, cette fois-ci. Le précédent était soviétique. Enfin, bon. L'idée d'aller chercher ces roches sur la dorsale océanique. Et donc si on veut tracer le dégazage, il faudra utiliser un traceur, peut-être pas l'hélium, puisque l'hélium, je vous ai dit qu'il s'échappe vers l'espace, mais peut-être l'argon, le néon ou le krypton, hein, des choses comme ça, qui pourraient avoir des horloges à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire des horloges radioactives, et qui vont être retenues dans le champ de gravité de la Terre. Donc on va avoir un système bouclé. Et donc si on compare, peut-être, l'idée c'était de dire, si on compare la composition isotopique de l'argon dans l'atmosphère avec la composition isotopique de l'argon qu'on va trouver à l'intérieur de la Terre, on va peut-être pouvoir en déduire des choses sur quand a eu lieu le transfert, quand a eu lieu le dégazage. Voilà. Donc, quand on va faire des dragages sur les dorsales, on ramène des morceaux de roches du fond que vous connaissez, ça s'appelle des pilolava. Hein, voilà. Et alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les croûtes. Vous voyez, c'est du basalte qui est refroidi assez brutalement, mais quand même assez doucement pour l'intérieur des tubes, c'est une espèce de tube de lave, hein, ça. Et puis, vous avez une espèce de croûte vitreuse à l'extérieur qui elle, alors là, s'est refroidie tellement vite qu'on peut dire qu'elle a été trempée. Donc, vous avez du verre basaltique et c'est ça qui nous intéresse parce que c'est ce genre d'échantillon qui est le plus susceptible d'avoir piégé les gaz profonds et de les avoir également protégés contre un éventuel échange avec les gaz rares atmosphériques dissous dans l'eau de mer. Donc il y a là une contamination potentielle, et pour s'en affranchir, il vaut mieux, c'est clair, on peut faire des expériences pour le montrer, il vaut mieux prendre le verre, qui a été refroidi le plus vite possible, enfin, extrêmement vite. Bon, donc voilà, les échantillons, c'est des petits morceaux de verre comme ça. Alors vous voyez, on voit quelques cristaux, souvent des cristaux de plagioclase ou d'olivine, et il y a parfois des vésicules. Je vous montre là un morceau de verre là, qui est particulier, parce que c'est une toléite de dorsale, vous savez que ça s'appelle des toléites, hein, vous connaissez ça, qui est extrêmement riche en vésicules de gaz. Hein. Là, la vésicularité, c'est-à-dire le volume des vésicules sur volume total, c'est à peu près 20%, en fait, c'est 18%. Hein. Et ça, c'est très, 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 très fort. Bon. Et quand on fait des analyses là-dessus, on se rend compte que l'essentiel du gaz est dans les vésicules. Alors ces vésicules sont des vésicules de CO2, le gaz majeur là, qui a permis l'exsolution. En fait, ce gaz a été dissous dans le magma, et au fur et à mesure de la remontée en allant vers la dorsale, avant l'éruption, quelque part, il s'est exsolvé, et le gaz majeur, hein, essentiel, qui a formé ces vésicules, c'est du gaz carbonique. Vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau ? Oui, il y a de l'eau, mais l'eau, elle a une solubilité plus grande et elle reste dissoute dans le magma. Quand vous avez des éruptions qui se produisent à 2000, 3000 mètres de profondeur sous la surface de la mer, l'eau reste pratiquement complètement dissoute dans le magma. Donc le gaz qui s'exsolve et qui forme ces vésicules, c'est le CO2. Et puis ensuite, vous avez éventuellement d'autres gaz qui sont en trace, comme les gaz rares, qui ne font que se partager entre ces deux phases. Voilà, alors, bon, la première fois qu'on a ramené des roches comme ça, c'était dans les années, c'était en 75, il y a une publication en 76, et c'était sur un bateau américain, et des petits morceaux de ces roches-là, en fait, là, vous savez, la drague se pose sur le fond du bateau, bon, vous avez des tas de petits morceaux qui sont cassés, qui tombent sur le fond du bateau, et les gens se sont rendus compte, il y avait des bruits bizarres d'explosion, qu'un petit morceau peut éclater par lui-même et donc sauter comme ça sur le pont. Ils ont appelé ça des popping rocks, des roches qui sautent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous ramenez votre drague assez rapidement du fond de la mer à 3000 ou à 2000 mètres de profondeur, donc à une pression de l'ordre de 200 ou 300 bars, et donc là, vous avez une roche qui contient des vésicules. Si vous avez la chance d'être arrivé pas trop longtemps après l'éruption, c'est-à-dire que ce verre est encore bien solide, n'a pas été trop altéré, donc les vésicules sont fermées, et quand vous les remontez, elles sont sous pression. Et donc, ça peut éclater. Et donc, voilà, ça fait des roches qui se mettent à éclater toutes seules. Et la pression est vraiment très élevée là-dedans. Bon, ensuite, nous, ce qu'on a fait, il y a deux solutions hein, pour récupérer les gaz à partir d'un échantillon comme ça. Soit vous les chauffez dans un four comme ça. Vous voyez là, c'est un four à chauffage par induction. Enfin bref, vous avez un creuset qui est chaud. Et on peut les chauffer progressivement d'ailleurs. Ou alors on peut, je n'ai pas d'illustration, mais on peut les broyer. Et là, vous obtenez les gaz qui sont dans les vésicules. Et après, ben, l'analyse des gaz rares, elle se fait avec un spectromètre de masse. Ça s'appelle un spectromètre de masse. Alors là, je ne sais pas si on voit bien là, ou il ne faudrait pas éteindre un petit peu. Bon, enfin. Bon, la photo n'est pas extraordinaire. Ça, c'est les machines que j'ai utilisées qui étaient à Paris, dans le laboratoire de Claude Allègre. Et c'était des machines un peu spéciales, puisque vous voyez, le tube est en verre. Et donc, vous avez à l'intérieur de ce tube de verre qui est porté sous un ultra-vide, un vide extrêmement poussé. Donc, vous avez une partie métallique ici qui est la source d'ions, avec un filament chaud qui génère des électrons pour fabriquer des ions. Les ions sont ensuite accélérés. Ils passent dans un champ magnétique, vous avez l'aimant ici, et donc ils sont déviés en fonction de leur rapport masse sur charge, et on les récupère dans cet ensemble métallique ici qu'on voit à travers le verre, où vous avez des systèmes d'amplification qui permettent de mesurer le signal. Bon, j'en dirai pas plus. Alors, on va un petit peu regarder l'argon. L'argon, vous savez qu'il y a trois isotopes stables dans la nature, argon 36, argon 38, argon 40. L'argon 40 domine largement puisque c'est l'isotope radiogénique, il est produit par la désintégration du potassium 40. Et puis les deux autres sont stables, sont non radiogéniques, donc ont été fabriqués à la nucléosynthèse et puis sont là. Il leur arrive rien, quoi. Sauf qu'ils peuvent être transférés d'un réservoir à l'autre, à l'intérieur de la Terre. Donc, on va utiliser une sorte de fossile chimique. Je ne sais pas si Francis Albared a utilisé ce mot hier. Mais donc, si on veut faire du traçage isotopique, un peu comme en biologie, on fait du traçage en injectant des atomes marqués. Hein. Nous, en fait, les atomes, là, ils sont présents. Hein. On ne les injecte pas dans la Terre. On n'a pas une Terre qui évolue sous nos yeux sur la paillasse. Mais on regarde l'état actuel et on a des isotopes marqués qui sont présents naturellement. Et donc, le fossile chimique, c'est un rapport isotopique. Vous avez entendu parler hier du rapport strontium-87 sur strontium-86, je pense, du rapport plomb-206 sur plomb-204, que sais-je encore, néodyme-144 sur néodyme-143, ou à moins que ce ne soit l'inverse. Ici, je vais utiliser argon-40 sur argon-36. Bon. Alors, l'isotope radiogénique, toujours au numérateur, et puis l'isotope stable non radiogénique, toujours au dénominateur, en général. Donc voilà, 40 sur 36, c'est le traceur que je vais utiliser. Et voilà les résultats. Bon, exprimés ici dans un diagramme. Alors je vous explique. Voilà le rapport 40 sur 36, là, ici, mis en ordonnée. Et ici, c'est la quantité, si vous voulez, d'argon 36 qui a été obtenue lorsqu'on a fait un chauffage progressif de ce type d'échantillon que vous venez de voir. Là. On a chauffé à peut-être... 500 degrés, puis ensuite 700, 1000, 1100, 1500, etc. Bon, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 paliers. On ne peut pas faire beaucoup de paliers de température parce qu'il y a très très peu de gaz là-dedans. Les appareils sont extrêmement sensibles et donc à chaque fois qu'on fait un palier de température, on fractionne le gaz et il y en a moins à mesurer. Hein. Alors, ce qui apparaît dans beaucoup de manips comme ça, c'est que dans les premiers paliers, on obtient un rapport isotopique faible, souvent assez proche du rapport isotopique de l'air. Le rapport isotopique argon 40 sur argon 36 dans l'air, je ne sais pas si vous connaissez sa valeur, peut-être que oui, parce que c'est ce qu'on utilise pour la datation, il est de l'ordre de 300, c'est 295,5, donc environ 300. Ça, c'est l'atmosphère. Et il n'y a pas de variation. L'atmosphère, c'est un réservoir très, très bien mélangé hein, par la météo, si vous voulez. Donc, voilà. Et donc, on pense que là, quand on obtient comme ça des rapports isotopiques relativement bas, voire atmosphériques, eh ben, en fait, on extrait de l'air. Donc, c'est la fameuse contamination dont je parlais tout à l'heure, qui est probablement assez peu liée à l'échantillon. Donc, on enlève cet air. Et après, alors... chose qui était assez extraordinaire. On n'a pas été les premiers à découvrir ça, hein, si vous voulez, mais bon, on a monté les valeurs là jusqu'à des valeurs qui n'étaient pas connues à l'époque. Hein, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ensuite, quand vous continuez à chauffer, vous obtenez des valeurs complètement anormales par rapport à l'air, hein, des valeurs extrêmement élevées, de l'ordre de 10 000, ça monte parfois jusqu'à 20 000, 25 000, 30 000. Voilà. Donc vous avez là des anomalies isotopiques par rapport au standard qui est l'air, qui sont extrêmement fortes, puisque, bon, si, vous voyez, si je prends, supposons que j'ai 30 000, hein, c'est 100 fois plus fort que le rapport isotopique de l'air. Voilà. Alors, ce que je dis que ça, je vais vous montrer d'autres manips après, hein, mais je dis que ça, c'est ces valeurs extrêmement fortes du rapport 40 sur 36 de l'argon, c'est la trace du dégazage. C'est-à-dire, c'est la trace que l'argon qui sort de l'intérieur de la Terre et de l'argon résiduel d'un dégazage extrêmement fort et extrêmement ancien. C'est pour ça, parce que le dégazage a été très fort, c'est-à-dire l'intérieur de la Terre a été pratiquement vidé de son argon qui s'est retrouvé dans l'atmosphère, et parce que ce phénomène a été très très ancien, que les valeurs actuelles, en tout cas celles qu'on mesure ici, là, sont aussi élevées. Donc ça, c'est une façon de faire du traçage d'un phénomène géologique, traçage isotopique. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez.
la quantité est stabilisée à 300 dans l'atmosphère,
c'est pas la quantité, hein. C'est le rapport de deux isotopes, mol d'argon 40 sur mol d'argon 36.
Ce rapport est stabilisé à 300, c'est à cause de l'activité radiogénique de l'argon 40
dans l'atmosphère?
Oui, puisque
dans l'atmosphère, ce qu'on
nourrit finalement par ce dégazage.
Absolument, oui. Non, mais ça, c'est l'intérieur de la Terre.
Les 300.
Oui.
Ça, c'est dans l'atmosphère.
Dans l'atmosphère, oui.
Cette atmosphère est nourrie par ce dégazage de la Terre.
Tout à fait, oui. Oui.
Oui. Donc, au cours d'un certain temps, on devrait avoir la même quantité dans l'atmosphère qui est nourrie dans cette
oui,
gaz.
Vous allez voir. Vous allez voir. Oui.
Bon,
d'accord.
Est-ce que c'est dû à la quantité de dégradation de l'argon 40?
Vous allez voir, vous allez voir. Non, non. Si je peux me permettre, je vais répondre. Au début, il n'y a pas, pratiquement, il n'y a pas d'argon 40. Et l'argon 40, je vais l'expliquer après, hein, il est produit par la désintégration du potassium à l'intérieur de la Terre. D'accord ? Donc, vous voyez que si le dégazage, je vais le montrer, hein, si le dégazage se fait aujourd'hui, dans l'atmosphère, on devrait avoir, supposons que l'intérieur de la Terre, ça soit 15 000, on devrait avoir 15 000. En haut et en bas. Maintenant, si le dégazage se fait il y a très longtemps, quand il n'y a pas encore d'argon 40, on dégaze de l'argon 36 pur. Et si le dégazage ensuite diminue, ben l'argon 40 va rester à l'intérieur. Donc c'est une façon de séparer, si vous voulez, les deux isotopes. Donc c'est pour ça que je dis, je viens d'expliquer, mais je vais le réexpliquer avec des images, que ces valeurs élevées sont une trace de deux informations, hein, l'intensité du dégazage et l'âge du dégazage, la chronologie. Et on va le revoir. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire?
Oui.
C'est la différence. Par le dégazage, en faisant jouer, disons, l'âge du dégazage par rapport à la vitesse de décroissance du potassium qui génère de l'argon 40, on sépare en quelque sorte le dégazage de l'argon 36 et le dégazage de l'argon 40. Voilà, donc là, c'était simplement pour vous montrer qu'on avait fait d'autres manips, donc là, il y en a 9, et on retrouve toujours un peu la même chose. Regardez pas trop, parce que dans le détail, vous allez me poser des questions embêtantes. Sur les manips, il peut y avoir des artefacts, il peut y avoir des petits problèmes de correction de blanc. C'est des manips qui sont quand même... L'article est sorti en 85, là, donc c'est quand même 1985, c'est quand même assez ancien. Mais donc, c'est assez général de voir comme ça des rapports faibles, puis suivis ensuite à plus haute température de rapports élevés. Parfois, non, on ne voit pas de rapports faibles. Tous les rapports sont élevés comme ça. Alors là, c'est les barres d'erreur, hein, qui sont là. Donc, ici, par exemple, vous avez tellement peu d'argon dans le dernier palier de température que bon, la barre d'erreur est très faible, mais c'est très très peu d'argon. Donc dans la globalité de l'échantillon, ça ne compte pratiquement pas. Pour vous montrer que bon, c'est pas le seul échantillon, mais vous voyez qu'en fait aussi une autre chose, c'est que les maximums sont variables. Ici c'est 15 000, ici aussi ça peut être 20 000, ça peut être ici c'était 25 000. Depuis on a d'autres manips qui montent encore plus haut. Bon voilà. Donc je disais, ce rapport isotopique contient une double information, la chronologie et l'importance du dégazage. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Et bon, c'est ce que je vous ai dit, hein, le dégazage, ces valeurs très importantes suggèrent un dégazage très ancien et très important. Alors, comment ça marche? J'essaie de faire un petit cartoon, un petit dessin animé. On va modéliser ça de façon très simple, par des boîtes, ce qu'on appelle des réservoirs géochimiques. Francis vous en a sans doute parlé hier. Le manteau, ça va être une boîte, et il va y avoir un transfert de matière, un transfert de gaz en l'occurrence, qui va engendrer l'atmosphère. Il y a des volatiles là-dedans, hein, qui ont été mis lors de la formation de la planète. Et puis, on va comme ça engendrer l'atmosphère. Donc, on a un modèle à deux boîtes, tout simple, et avec une flèche entre les deux. Voilà, c'est ça, le modèle est très simple. C'est un modèle de géochimiste, hein. Je ne suis pas géophysicien. Alors, donc, le traceur que j'utilise, c'est l'argon. L'argon va être transféré du manteau vers l'atmosphère. Et le traceur qui va vraiment tracer ce phénomène-là, ce n'est pas l'argon 40, c'est l'argon 36 qui était là au début et à qui il n'arrive rien. Il n'y en a pas qui est produit, il ne se désintègre pas, donc il va vraiment nous tracer le transfert de matière. Donc, je vais utiliser l'argon 36. Et par contre, l'argon 40, lui, Il y en a pratiquement zéro au départ. Hein. Ce n'est pas le cas pour le xénon, pour le néon, mais pour l'argon, dans les modèles d'étoiles qui nous disent quels sont les isotopes qui sont fabriqués dans les étoiles, dans la nucléosynthèse, on fabrique presque pas d'argon 40. Donc, il est fabriqué par désintégration dans les roches du potassium 40. Et on va supposer, en première approximation, que le potassium reste dans le solide, dans la partie solide, donc reste dans le manteau. C'est que l'argon qui part comme ça. L'argon 40, lui aussi, il va s'en aller, hein, quand il y en a. Donc il faut le temps de le produire avant qu'il sorte par les dorsales, avant qu'il soit dégazé. Donc voilà, donc dans le manteau, vous avez une horloge, un potassium 40 donne argon 40. Mais vous voyez qu'on n'utilise pas là pour dater des roches, mais pour dater des réservoirs. C'est ça le traçage isotopique. Et donc, si vous voulez, ce que je disais, c'est que les valeurs que nous mesurons de ce fossile chimique isotopique argon 40 sur argon 36, ce rapport, en fait, ne sont qu'un reflet, au bout d'un certain temps, des variations de ce rapport. Le rapport que j'ai envie d'appeler rapport chimique, de deux éléments chimiques différents, potassium 40 sur argon 36. Si ce rapport change dans le manteau, au bout d'un certain temps, je vais le voir en analysant ce rapport-là. Et comment ce rapport pourrait-il changer dans le manteau ? Ben, par le dégazage. Si j'enlève de l'argon 36, eh ben, ce rapport va augmenter. Et donc, tic-tac, tic-tac, au bout d'un certain temps, qui est commensurable avec la période de désintégration du potassium, j'aurai une augmentation du rapport argon 40 sur argon 36 qui devra être supérieure et plus rapide que s'il n'y avait pas eu dégazage. Alors, je reprends et j'illustre. Je dois avoir une illustration là derrière. Voilà. S'il n'y a pas eu de dégazage, si votre manteau est resté une boîte close, un milieu clos, comme on dit, le potassium 40 se désintègre en argon 40, donc le rapport argon 40 sur argon 36 va augmenter quand même au cours du temps, jusqu'à atteindre une certaine valeur. Si vous acceptez mes calculs, je dirais que ce serait de l'ordre de 400-500. Pas très différent de l'atmosphère. On peut y revenir. Donc, milieu clos, voilà. Pour illustrer l'idée. Hein. Si vous avez par contre un dégazage, ben vous allez avoir une augmentation plus rapide du 40 sur 36. Plus rapide et plus importante. La valeur finale va être au-dessus, va être plus élevée, et ça va croître plus rapidement. Vous n'avez pas un milieu clos, comme dans la datation, les hypothèses qu'on fait dans la datation, vous avez une boîte, mais qui est ouverte. Voilà. OK ? Non ? Alors, c'est une autre façon de voir les choses. Je peux dire aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. En dégazant le manteau, ben on dégaze d'abord de l'argon 36, et puis ensuite, si le dégazage diminue, on dégaze moins, et donc l'argon 40 a tendance à rester à l'intérieur. C'est un peu la même chose. Ce qui s'accumule finalement dans l'atmosphère, c'est une intégrale de tous les rapports isotopiques du manteau qui ont été dégazés, modulés par la vitesse de dégazage, si vous voulez. Donc il est très faisable qu'on se retrouve avec une valeur de 300 dans l'atmosphère si on a dégazé très anciennement, à une époque où c'était pratiquement de l'argon 36 pur. Vous voyez ? Et ensuite, on a rajouté du 40, mais comme la vitesse de dégazage avait décru beaucoup, on n'en a pas rajouté beaucoup, donc on n'est pas monté bien haut et on reste à 300. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je continue. Donc voilà, c'était avec dégazage, sans dégazage. Donc je dis dégazage précoce, dégazage important. Alors, bon, le xénon. Alors, une chose qu'on avait fait dans ce laboratoire aussi à l'époque, c'était de mesurer le xénon. Et ce n'est pas de la tarte, ce n'est pas évident, parce qu'il y en a vraiment très peu. Vous savez que les abondances diminuent au fur et à mesure que les atomes sont de plus en plus gros, hein, en gros, donc... Le xénon, il n'y en a pas lourd. Hein. Mais bon. Alors, le xénon, il y a, ça c'est un extrait d'une table des isotopes, il y a 9 isotopes stables dans la nature qui en ont 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136. Bon. Je vais m'intéresser là à un seul de ces isotopes, rassurez-vous. Mais on peut dire quand même que les isotopes lourds, là, à partir de la masse 131, le 132, le 134 et le 136, sont produits par la désintégration, enfin la fission spontanée de l'uranium-238. Il y a aussi un nuclide éteint, vous connaissez les nuclides éteints, le plutonium-244 qui aurait existé à la formation de la Terre, qui aurait produit ces isotopes-là. Alors, le 130 est un isotope stable non radiogénique, lui, il lui arrive rien. 124-126 aussi, 128 aussi. Bon. Et 129 est très intéressant parce qu'en fait, vous voyez, il n'est pas loin de l'iode, qui est juste en dessous. Et il existe un isotope éteint, encore un. Je viens de parler du plutonium-244, il y en a un autre. Un isotope de l'iode, qui est l'iode 129. Ça, c'est bien connu par les analyses qui ont été faites dans les météorites. Hein, on a des anomalies de xénon 129. Dans les météorites, on a détecté la présence ancienne et disparue de cet isotope éteint, on appelle éteint, l'iode 129, par des enrichissements en son fils, son isotope fils, le xénon 129. Et ça, c'était connu depuis les années 50-60, notamment par des études qui avaient été faites en Californie. Donc voilà les 9 isotopes du xénon. Voilà des résultats isotopiques de xénon obtenus sur une popping rock comme celle que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai porté ici les 9 isotopes du xénon, qu'on les a mesurés. 124, 126, c'était vraiment trop difficile et j'avais des barres d'erreur tellement grandes que je ne les ai pas reportées. Et là, en fait, c'est le rapport qui est mesuré. Alors, les rapports isotopiques ici sont normés, avec l'argon, c'était à l'argon 36, ici c'est au xénon 130, qui est l'isotope stable non radiogénique de service. Là. Donc, le rapport mesuré pour toutes les masses sur le xénon 130, divisé par le rapport de l'air. Donc, si j'avais mesuré de l'air, tous les points seraient ici, vous voyez. Donc là, j'ai le xénon qui vient de l'intérieur de la Terre. Alors ce xénon, bah, il est, vous voyez, enrichi en isotopes 131, 132, 134, 136. Ça, c'est la trace qu'il y a de l'uranium dans le manteau, et peut-être du plutonium-244, à qui il existait il y a très longtemps. Et puis, il y a cette anomalie colossale, enfin colossale pour le xénon, c'est jamais qu'une anomalie de quelques 10%, hein, mais qui ne peut être interprétée que par l'existence... de diode 129, ce nuclide éteint, qui a une période de 17 millions d'années à la formation de la Terre. Voilà, donc c'est l'iode 129 par désintégration bêta- qui donne du xénon 129 avec une période de l'ordre de 20 millions d'années, hein, une période très courte à l'échelle de l'histoire de la Terre. Pas de problème là. Et donc là, ça va être même encore plus simple que pour le xénon, parce que je vais y revenir tout de suite, quoi, mais je vous dis, le dégazage a dû avoir lieu avant, pour qu'il y ait anomalie. Je viens de vous montrer qu'il y avait une anomalie de 10% du xénon 129 dans le xénon qui vient de l'intérieur de la Terre. Ce que je dis, c'est que pour qu'il y ait anomalie, il faut que le dégazage ait eu lieu avant l'extinction complète, non pas des feux, mais de l'iode 129, de l'isotope père. Alors, l'extinction complète, on dit souvent qu'un nuclide est éteint, entre guillemets, au bout de 5 fois la période. Mettons 10 fois, si c'est 5 fois la période. Si vous prenez comme période 20 millions d'années, 5 fois 20, ça fait 100. Donc, il faudrait que le dégazage ait eu lieu avant que 100 millions d'années ne se soient écoulées après la formation de la Terre. Prenons 10 fois, ça fait 200 millions d'années, c'est quand même très court. Donc, ça dit que s'il y a cette anomalie, c'est que le dégazage a eu lieu il y a très longtemps, il y a plus de 4 milliards d'années. Hein. Alors voilà un petit schéma qui était paru dans Pour la science en 96. C'est la même idée que j'essaie d'illustrer d'une autre façon. Vous avez ici, au cours du temps, les évolutions de divers isotopes. Et là, paf, c'est le dégazage. Et le dégazage, je peux imaginer que je le fais soit plus tôt, soit plus tard. Alors vous voyez, vous avez des boules rouges et des boules bleues. Pardon. Les boules rouges, c'est le xénon 130, donc c'est toujours les mêmes là. C'est les mêmes. Par contre, le xénon 129, il augmente dans le manteau. Le xénon 130, il est constant. Et l'iode 129, elle, se décompose. L'iode, ce nucléide se décompose, au masculin, si vous voulez. Et puis là, je fais mon dégazage. Tac, donc, je diminue fortement la concentration en xénon 129, en xénon 130. Ça, je ne touche pas parce que ce n'est pas un gaz, hein, l'iode. Et vous voyez que comme il me reste un petit peu de diode 129 ici, eh ben, mon xénon 129 va continuer à augmenter. C'est exactement la même chose que pour l'argon. Hein. Sauf que là, comme l'iode 129 se désintègre très 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 vite, bah, si je faisais mon dégazage ici, j'aurais nécessairement la même composition isotopique de xénon, le même rapport 129 sur 130 dans l'atmosphère et dans le manteau. Comme j'ai une anomalie positive dans le manteau, ça veut dire que le dégazage a eu lieu avant l'extinction complète de l'iode 129. Vous voyez. Alors vous pouvez retrouver l'article. D'accord ? Les boules rouges et les boules bleues ? Pas de problème ? Voilà. Alors là, c'était pour vous montrer que... Enfin, on peut modéliser ça, mais bon, on va passer sur les équations. Hein, c'est les équations de la radioactivité pour un milieu clos. Mais là, on y rajoute une flèche, comme vous avez vu, c'est ouvert. Hein. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Pour l'isotope stable, argon 36 et xénon 130, stable et non radiogénique, la vitesse de dégazage, on va supposer, elle s'écrit ici. Je l'appelle S, cet isotope. Je l'écris dS manteau sur dT. C'est la vitesse. Je vais dire que c'est une certaine fonction g de t avec une constante devant que j'ai mise proportionnelle à la quantité initiale d'argon 36 ou de xénon 130. Et cette fonction g de t, ben, pour modéliser ça, on a dit, par exemple, on va la prendre exponentielle. On va dire la Terre se refroidit, donc son activité diminue au cours du temps, donc le dégazage doit diminuer aussi, puisque finalement ça passe par la fusion. Actuellement, en tout cas, ça passe par la fusion du manteau, génération de magma, puis on va au dorsal, et là, on perd les bulles. Donc, probablement que la vitesse de dégazage aussi décroît. Donc, on a pris une exponentielle décroissante, l'exponentielle moins bêta t, voilà. Alors, le but, c'était de déterminer bêta, donc on peut le faire. Alors, je vais vous passer tous les calculs quand même, mais simplement pour avoir les idées, bon... Voilà. Donc, en fait, j'ai mis tout sous forme d'intégrale, sans calculer les intégrales. De toute façon, elles ne sont pas calculables à partir d'un certain moment. Donc voilà, enfin bon, ça c'est l'isotope stable. L'isotope pair, ben, c'est une équation que vous connaissez. Hein. dP sur dT égale moins lambda P. On peut rajouter une extraction du potassium vers la croûte continentale si on veut, mais ça ne change pratiquement rien. Ça c'est pour l'argon. L'argon, il y a deux schémas de désintégration. Enfin, le potassium se désintègre, vous savez, en calcium 40 ou argon 40. OK. Bon, et donc ça donne une formule comme ça, une exponentielle, bon, il n'y a pas de problème. Et pour le rapport isotopique 4036 ou 129 sur 130, la vitesse d'évolution de manteau de ce rapport, on peut montrer qu'elle est égale à quelque chose d'assez simple. Comme je disais tout à l'heure, hein, 40 sur 36 n'est que la traduction, au bout d'un certain temps, du rapport potassium 40 sur argon 36, il y a la même chose avec le xénon, etc. Donc ça donne des formules compliquées. Là, pour le manteau, l'argon 40 sur 36 en fonction du temps, dans le réservoir manteau. Et également dans l'atmosphère, alors la vitesse d'évolution c'est un peu plus compliqué, et puis on a une formule un peu compliquée, mais avec les moyens de calcul on peut la résoudre. Ce qu'on a été amené à faire, c'est de prendre, pour satisfaire à la fois le xénon 129 et l'argon 40 sur 36, on a été obligé de prendre en fait une combinaison de deux exponentielles différentes, et on a, sinon ça ne marchait pas, on n'avait pas une seule valeur permettant de satisfaire les deux systèmes. Et si vous voulez, ce qu'on fait, donc, on trace on trace toutes les courbes possibles, et puis on dit ben, la contrainte, on va dire que là, j'ai mis une contrainte à 25 000, je vais obtenir 25 000 dans le manteau et 300 dans l'atmosphère. Voilà, et donc là, ça c'est le temps passe comme ça, ça c'est l'âge, là je diminue, hein, 4 milliards, 3 milliards, 2 milliards, ici on est là, aujourd'hui l'actuel est ici, et bon, ben, on trouve les constantes, on essaye de trouver les constantes. Vous voyez, dans l'atmosphère, on dégaze assez rapidement l'argon 40, puis après il n'y en a plus, il faut attendre un certain temps pour que l'argon 40 soit généré à l'intérieur de la Terre. Même chose avec le xénon, etc. Et finalement, ma combinaison de deux exponentielles, vous la voyez là, comme c'est en log, c'est des droites, hein, il faut nécessairement avoir un premier stade extrêmement rapide de dégazage, mais qui décroît également très très rapide, très très rapidement. Donc si vous voulez, vous avez le flux d'argon 36, cette flèche dont je parlais tout à l'heure, qui a une valeur élevée au début, en grammes par an, c'est en grammes par an là. Mais ce flux décroît très vite. Et ensuite, on a une constante de temps là qui est de l'ordre du milliard d'années, qui est le dégazage doux, lent, qui existe encore aujourd'hui. Mais donc on a un dégazage presque catastrophique au départ, en tout cas extrêmement puissant, et qui décroît très vite, ça peut être en fait que, comme je le disais au début, on n'a pas simplement une Terre homogène qui s'individualise, puis ensuite qui commence à dégazer, mais ça peut être simplement que dans les derniers stades de croissance de la planète par impact de météorites, enfin de planétésime, à chaque fois, il y a du gaz qui est libéré hein, à chaque impact, et ce gaz forme une atmosphère autour de la planète. Donc peut-être que ça, c'est un peu la trace de la façon dont la Terre s'est accrétée par accrétion par collision de planétésime. Voilà, donc la conclusion, le dégazage était rapide de l'ordre de 100 millions d'années, et bon, on est obligé de conclure que pratiquement tout l'argon 36 du manteau, est-ce que c'est le manteau total ou simplement une partie du manteau probablement vers la surface? Ça, c'est une autre question. Mais disons, pratiquement tout l'argon 36 du manteau est passé dans l'atmosphère en 100 millions d'années ou quelque chose comme ça, soit environ 80% de l'argon 36 actuellement présent dans l'atmosphère. C'est-à-dire on a quand même continué un petit peu à dégazer après le dégazage massif initial. Voilà, donc ça, c'est un vieux schéma. Bon, on continue? Ou ça vous va comme ça? Ou on va montrer que la science n'est pas toujours linéaire. Tout ça, c'est beau, c'est bien beau, mais il y a d'autres modèles qui sont apparus depuis, hein, peut-être plus compliqués. Vous avez peut-être lu dans la recherche des choses sur le rapport deutérium-hydrogène, où on fait venir les océans, parce que dans ce système de dégazage tel que je viens de vous l'expliquer, les océans proviennent de l'intérieur de la Terre par dégazage. Hein. L'eau aussi devrait dégazer. Alors, il y a d'autres personnes qui ont fait d'autres manips avec l'isotope de l'azote, avec l'isotope de l'hydrogène, donc le D sur H. Et vous avez peut-être vu dans la recherche donc, des articles récents disant que les océans sont venus tardivement amenés par des impacts de comètes ou des choses comme ça. Et peut-être que les deux sont vrais, qu'il y a une partie du gaz qui vient de l'intérieur et une partie qui vient de l'extérieur. Bon, moi, ce que je vais vous expliquer hein, là, maintenant, c'est le néon. Et vous allez voir que ça ne marche pas forcément très bien. Alors le néon, il y a trois isotopes stables, néon 20, néon 21, néon 22, dans la nature. Et il n'y a pas de réaction de désintégration radioactive qui produise des isotopes du néon. En fait, il y a des réactions nucléaires à l'intérieur des roches, que voilà. Alors pour le manteau, celle-ci, on peut la négliger parce que c'est sur le fluor, il y a très peu de fluor dans le manteau. Les quatre réactions essentielles, ce sont celles-ci. Ce sont des réactions alpha N ou N alpha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous avez certains atomes, certains isotopes, qui absorbent une particule alpha, donc ils sont dans un état excité, qui réémettent un neutron, et hop, ça donne un nouvel atome. Hein. Alors d'où viennent ces particules alpha? Dans les roches, même dans les roches du manteau, il y a de l'uranium, il y a du thorium, et donc il y a toute cette chaîne de désintégration radioactive alpha que vous connaissez bien. Et donc, il y a des particules alpha qui se promènent dans les cristaux. Et donc, extrêmement rarement, on a des réactions comme ça qui peuvent se produire, mais ça produit quand même des isotopes du néon. Même chose avec les neutrons. Hein, certaines réactions produisent des neutrons, et ces neutrons peuvent interagir avec d'autres atomes. Alors, en fait, le résultat, c'est que du néon 20, il n'en est pratiquement pas produit. Du néon 22, il n'en est pratiquement pas produit. C'est essentiellement du néon 21 qui est produit. Voilà. Donc, les deux rapports isotopiques qu'on utilise habituellement et qu'on utilisait dans les premières manips sur les météorites, c'est 20 sur 22, 21 sur 22. Et ça ne vous étonnera pas, puisque vous avez vu l'argon et que vous avez vu le xénon, que je vous explique que l'évolution de ces rapports à travers les réactions nucléaires que je viens de vous présenter, traduisent au bout d'un certain temps les variations du rapport uranium plus thorium sur néon, 22. C'est un peu la même chose que quand je disais le rapport argon 40 sur argon 36 traduit au bout d'un certain temps les variations du rapport potassium 40 sur argon 36. Sauf que là, les éléments uranium et thorium ne sont pas directement les parents par radioactivité, mais ils sont quand même à la source de la production, si vous voulez. Bon, donc un peu on trouve un peu la même chose, c'est-à-dire dans les chauffages en palier de température, on a des valeurs relativement faibles au début, puis les valeurs augmentent. Et si on ne retient que les valeurs maximum, et là j'avais deux rapports isotopiques, et qu'on les met dans un diagramme qui était un diagramme classique, 20 sur 22 du néon, 21 sur 22, Eh bien, on a obtenu, et c'est quand même assez gratifiant d'obtenir ça, une très belle corrélation pour des échantillons là, qui proviennent de têtes dorsales différentes situées un peu partout dans le monde, Atlantique, Pacifique, Indien. Alors, je vous explique un peu ce diagramme, mais un peu compliqué. Ici, vous avez la composition isotopique de l'air en néon, 21 sur 22, 20 sur 22. Et A, B et C sont des composants qu'on avait identifiés à l'époque dans les météorites. Donc, on ne va pas trop en parler. Hein. Cette droite ici, marquée MDL, c'est Mass Discrimination Line, c'est la droite de discrimination de masse. Si vous prenez du néon atmosphérique et que vous appliquez sur lui des phénomènes qui vont fractionner les isotopes en relation avec leur masse, comme l'oxygène 18 et l'oxygène 16 fractionnent en relation avec leur masse, et on utilise ça comme traceur de la pluie, des phénomènes climatiques, hein, pareil, eh bien vous obtenez cette droite-là. Et S, c'est la composition du néon solaire, apparemment. C'est le néon qui est dans le Soleil. Alors W, en fait, c'est une expérience de néon qui avait été faite sur des gaz riches en CO2, des sources de gaz riches en CO2, qui se trouvent au Nouveau-Mexique. Bon, enfin. Et donc là, on pouvait en conclure que c'était du néon montélique hein, qui sortait dans ces gaz. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a cet alignement ? Que signifie cet alignement ? Ben, cet alignement, on peut l'interpréter d'une façon très simple. C'est de dire que le néon qui est à l'intérieur de la Terre, ben, il est par là, quoi. Il est anormal par rapport à l'air, encore une fois, comme pour l'argon, comme pour le xénon. Et là, ce qu'on voit, c'est un mélange avec de l'air. Alors, peut-être de la contamination à la surface que je n'ai pas encore réussi à enlever, parce que je vous rappelle que là, ce sont les valeurs maximum obtenues en palier de température. Donc, j'aurais dû retirer toute cette contamination atmosphérique. Peut-être aussi, on peut imaginer d'autres choses. Par exemple, que par subduction de croûte océanique altérée et de sédiments, on est réinjecté à l'intérieur de la Terre du néon atmosphérique. Enfin bref. Alors ce qui est... Bon, je ne vais pas m'engager dans ce débat-là. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on a probablement le pôle manteau, il est quelque part par là. Donc il est très anormal par rapport à l'air. Donc ensuite, on a essayé d'interpréter ça. Ce que ça veut dire, c'est que certainement, ces anomalies isotopiques sont un peu la traduction de même idée que précédemment du caractère très dégazé du manteau supérieur. D'après les estimations qu'on peut avoir des concentrations en uranium-thorium dans le manteau, et avec le temps dont on dispose, et les vitesses des réactions nucléaires que je vous ai montrées, on peut estimer que cette anomalie, hein, passant de 0,03 ici à 0,07, quelque chose comme ça, on peut l'interpréter comme étant dû à ces réactions nucléaires, combinées avec le dégazage. Donc ça, ça va bien. Par contre, le rapport 20 sur 22 ne devrait pas bouger, il devrait même diminuer un petit peu, en fait. Et donc, vous voyez qu'on a du mal à interpréter cette anomalie du néon 20 sur néon 22, parce que ce rapport isotopique se comporte comme un rapport d'isotope qui ne bouge pas. Et donc, si l'atmosphère provient du manteau, ben, on devrait avoir le même rapport néon 20 sur néon 22 dans l'air et à l'intérieur de la Terre. Donc, nous avons un petit problème. C'est le problème du néon initial de la Terre. Alors, je ne vous dis pas qu'on va le résoudre aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer... on va faire une petite digression pour vous montrer comment on peut utiliser aussi des isotopes comme ça pour tracer des phénomènes moins vastes que le dégazage, simplement au niveau de la dorsale. Bon, ça, c'est des publications qui ont été faites suite à une étude de la dorsale atlantique très sud, hein, dans les zones 50 degrés sud. Alors voilà toutes les dragues qui ont été réalisées sur cette dorsale. Et il se trouve qu'on a identifié deux petits points chauds qui doivent être les résidus des points chauds qui ont cassé la plaque le Gondwana, hein, qui a donné naissance à deux continents à l'époque. Et ces petits points chauds sont riches en hélium-3. Enfin, ils ont le nom Shona et Discovery. Bon, ce sont des noms. Hein. Et là, je vous montre le même diagramme que précédemment, la même ligne des morbes, des dorsales, hein, où un certain nombre de points s'alignent comme il se doit. Et vous voyez que les points de la dorsale, les échantillons de la dorsale influencés par ces petits points chauds dont j'ai parlé là. Donc en fait l'influence elle a lieu ici et en fait celui-là il est centré sur la dorsale, donc elle a lieu par là. Et ben il donne, ces points-là donnent un alignement complètement différent hein, et qui va vers le néon solaire. Donc ces points blancs en fait là sont les points que je vous ai montré qui semblent être influencés par les deux petits points chauds. Et ce que ça nous dit, c'est que ben, la source de ces points chauds, peut-être un manteau un peu profond, comporte du néon solaire. Et elle comporte aussi des enrichissements importants en hélium-3. Voilà, alors, on ne va pas tarder à s'arrêter. Rassurez-vous. Alors, ça, je vous fais un petit peu le raisonnement. À l'époque, on raisonnait comme ça. Si on était dans le modèle très simple, l'atmosphère se forme par dégazage de l'intérieur de la Terre, on aurait une composition atmosphérique de néon dans l'intérieur de la Terre, manteau supérieur, manteau inférieur, et donc on fabrique l'atmosphère, sans problème, ici, dans ce diagramme-là, c'est ça. Mais ensuite, il faut monter le rapport 20 sur 22 dans le manteau supérieur, source des dorsales. Donc à l'époque, on s'était dit, peut-être qu'il y a un réservoir profond, riche en néon, et que le néon traverse et fractionne l'isotope le plus léger, va plus vite. Alors, et dans ce cas-là, et ensuite, avec les processus nucléogéniques là, dont j'ai parlé, les réactions nucléaires dont j'ai parlé, on fabrique l'anomalie de néon 21 sur néon 22. Alors, le problème, c'est que là, quand on fait de la discrimination de masse sur le néon, en un stade, on ne peut augmenter que de 5%. Là, il faut augmenter de 30%. Alors, vous allez me dire, on peut faire plusieurs stades. Bon, ce n'est pas très clair. Et puis, maintenant, vous savez que, est-ce qu'il y a vraiment... Ça, c'est une image qui a été faite dans les années 80, donc... À l'époque, on pensait qu'il y avait un manteau inférieur. Maintenant, avec les données de tomographie sismique, c'est plus si clair qu'il existe un manteau inférieur. Bon. Alors, une autre solution, c'est de se dire, et l'image que je viens de vous montrer là, sur Shona et Discovery semblerait le confirmer, c'est que le néon initial de la Terre, en fait, il est solaire, quoi. Donc, solaire, solaire, solaire. Donc, on fabrique une atmosphère ancienne de type solaire. Donc, le néon initial est ici. Alors ça nous explique pourquoi le néon 20 sur 22 donc, est très élevé avec les processus nucléogéniques. On fabrique le manteau supérieur, là, solaire plus nucléogénique, pas de problème. Bon, le manteau inférieur, je ne sais pas s'il existe, il est solaire. Alors, Shona et Discovery, c'est peut-être ça. Peut-être un point chaud qui vient de là. Mais comment je fais mon atmosphère maintenant? J'ai une atmosphère de type solaire, mais l'atmosphère, en fait, je la mesure, elle est là. Alors que faire? Alors, une solution, ce serait, vous allez me dire, c'est comme l'hélium. L'hélium s'en va vers l'espace. Et en fait, il y a un fractionnement isotopique. L'hélium 3 s'en va plus vite que l'hélium 4 vers l'espace. Alors peut-être que le néon 20 s'en va plus vite que le néon 22 vers l'espace. Et hop, on descend. Bon, sauf que ça ne marche pas parce que le néon est retenu dans le champ de gravité de la Terre. Ça, c'est de la physique, on ne peut rien. Alors bon, il y a des modèles. Parce que les scientifiques ne sont jamais pris court. Enfin, on peut toujours imaginer quelque chose. Alors il y a des modèles d'une atmosphère ancienne riche en hydrogène, peut-être que cette atmosphère très ancienne, elle était riche en hydrogène. Peut-être qu'il y avait un résidu de la nébuleuse primitive. Et alors, on a des modèles qu'on appelle d'échappement hydrodynamique, où cet hydrogène s'en va vers l'espace, parce qu'il est encore plus léger que l'hélium, hein, donc il s'en va vers l'espace. Et en s'en allant vers l'espace, les molécules d'hydrogène boxent les autres atomes et molécules qui sont là, et elles entraînent les atomes de néon 20 et de néon 22, et elles entraînent plus les atomes de néon 20 que les atomes de néon 22, parce qu'ils sont plus légers. Mais ça, pour vérifier ça, c'était il y a 4 milliards et demi d'années, ça. Alors, difficile à vérifier. Si vous me suggérez un échantillon à mesurer pour confirmer ça, je suis preneur. Voilà, donc c'était pour vous dire que ça n'a pas beaucoup évolué depuis, hein, ce truc-là. Une hypothèse qui avait été proposée aussi, c'est le recyclage de poussière cosmique. Vous savez... La Terre accrète actuellement environ, disons pour donner un ordre de grandeur, 50 000 tonnes par an de poussière cosmique. C'est très élevé. Hein. Qu'on retrouve, qu'on peut échantillonner sur les calottes polaires, ou alors dans les sédiments très profonds, hein, on en trouve aussi. Alors, est-ce que des poussières cosmiques comme ça, il se trouve qu'en fait, quand on mesure des poussières cosmiques, qu'on envoie des satellites autour de la Terre, on les collecte, hein, on les ramène sur Terre, on les mesure, en fait, elles sont extrêmement riches en hélium et en néon de type solaire. parce que le Soleil émet des atomes ionisés qu'on appelle le vent solaire, et ça s'implante en fait dans les petites particules cosmiques, et ce matériau-là est gorgé littéralement d'hélium et de néon solaire, et d'autres atomes. Mais est-ce que ça résisterait à la subduction? On va chauffer là. Est-ce que ces volatiles résisteraient? Alors il y a des gens qui ont fait, notamment des Japonais, qui ont fait des expériences, qui ont pris des particules cosmiques, notamment les parties métalliques, parce que c'est un peu comme des météorites, hein, c'est des micrométéorites, il y a des grains de fer. Et apparemment, quand on fait des expériences de chauffage, et qu'on essaye de déterminer la vitesse à laquelle cet hélium et ce néon cosmique quittent la particule cosmique en réponse à une augmentation de température, eh ben c'est extrêmement rétentif le truc. Ces particules cosmiques sont extrêmement rétentives. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quel est le minéral qui retient ce gaz. Donc ça, c'est une possibilité. Bon, c'est un peu abandonné maintenant, mais ça pourrait peut-être revenir. Voilà, bon, je termine un peu en disant que dans les années 80, on avait donc cette idée d'un manteau à deux couches qui a été un peu battu en brèche depuis, avec des valeurs. Alors, faut pas retenir. Vous voyez, bon, les valeurs du manteau inférieur qu'on trouve dans les grands points chauds, j'ai pas le temps d'en parler là. Maintenant, elles sont plus aussi basses que ça. Maintenant, on a des valeurs plus élevées. Mais c'est très difficile à savoir parce qu'en fait, si on a une valeur basse qui traverse le manteau supérieur où le 40 sur 36 était à 30 000, alors peut-être qu'on a une contamination par le manteau supérieur, donc c'est pas très clair. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous avez maintenant d'autres modèles qui font venir les océans, une partie de l'atmosphère, voire toute l'atmosphère, par des impacts de comètes ou des impacts de météorites tardives qui auraient peu à voir avec l'essentiel des planétésimes qui ont formé la Terre. Donc tout ça, c'est encore très discuté, très débattu, très ouvert. Malgré tout, je pense que ces histoires de dégazage, c'est assez robuste, ça va rester. J'ai essayé de vous montrer qu'on ne comprend pas tout, mais je crois quand même que les valeurs élevées du xénon, 129 sur 130, de l'argon, 40 sur 36, qu'on trouve dans les basaltes de dorsale, donc qui nous donnent une image de ces gaz à l'intérieur du manteau supérieur, hein, je pense que ça va rester comme quand même une trace du dégazage. C'est peut-être qu'il n'y a pas que le dégazage qui a formé les atmosphères des planètes internes. Peut-être qu'il y a une combinaison avec donc des chutes de comètes ou des choses comme ça. Mais bon, je pense quand même que ces traceurs argon et xénon donnent une information sur le dégazage. C'est peut-être pas le seul phénomène. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, j'ai encore deux ou trois images, mais je crois qu'il est peut-être temps de